Mandrin. Deuxième partie, chapitre 13. Le retour. Après sa victoire de Guérande, Mandrin avait regagné le château de Bonrepos, où il avait établi définitivement son quartier général. Bien qu'il fût sorti vainqueur de cette lutte entre son amour et son devoir, il n'en gardait pas moins, au fond de son cœur meurtri, avec le souvenir ineffaçable de la femme adorée, la secrète et lancinante douleur de son absence. Aussi, chaque fois qu'au retour d'expédition, il voyait se dresser au loin la silhouette de l'ancien manoir du marquis de Montferrat, il se sentait frissonner d'une grande peine. Et quand il pénétrait dans cette salle où Voltaire l'avait accueilli avec tant d'empressement, et surtout quand il entrait dans cette chambre désolée et qu'il apercevait, tristement fanée dans leur vase, les fleurs qu'il n'avait pas eu le courage de jeter au vent, une telle souffrance l'empoignait qu'il se demandait avec angoisse s'il aurait assez de volonté pour se préserver d'une nouvelle défaillance. Pour achever, sinon d'oublier, mais d'apaiser la fièvre qui le brûlait, il n'avait cessé de multiplier ses prouesses. Jamais Mandrin n'avait été environné d'une plus radieuse auréole de popularité et de gloire. Jamais encore ses soldats, heureux d'avoir retrouvé leur chef, encore plus intrépide qu'avant, ne lui avait témoigné un dévouement plus profond, une affection plus inaltérable. Le capitaine général des contrebandiers de France avait le droit d'être fier de lui. La crise morale qu'il venait de traverser, au lieu de l'amoindrir, l'avait encore grandi, non seulement aux yeux des autres, mais vis-à-vis de lui-même. Ce jour-là, une grande animation régnait au château de Bonrepos. Mandrin, en effet, avait voulu célébrer ses successives victoires en offrant à ses compagnons un plantureux festin qu'il avait présidé avec son entrain des beaux jours. Et le vin avait coulé à flots. Aussi, les contrebandiers étaient-ils d'une gaieté exubérante. Et tous, parmi les rires tonitruants, et tout en levant et surtout en vidant leurs gobelets, reprenait en chœur un refrain que Mandrin, debout sur une table, rythmait d'un geste large, chef improvisé de cette pittoresque chorale, lorsque le frisé, en armes, apparut sur le seuil, et, tout en bousculant ses camarades, il parvint jusqu'à son chef et lui fit signe qu'il avait à lui parler en secret. Sautant à terre, Mandrin lui demanda « Eh bien, qu'y a-t-il ? » Le frisé lui murmura quelques mots à l'oreille. Et Mandrin, qui avait pâli, fit simplement « J'y vais ». Puis, brusquement, il quitta la salle. Dans le vestibule, une femme attendait. C'était Nicole. « Toi ?» fit Mandrin, d'une voix vibrante d'émotion. Mais déjà Nicole était dans ses bras, et ce ne fut qu'un long baiser, qu'une très douce étreinte. Mandrin, se ressaisissant le premier, entraînait Nicole vers l'escalier qui conduisait à leur chambre. Toujours, sans dire un mot, il ouvrit la porte. Et de nouveau, Nicole enlaça son cher capitaine, contemplant son beau visage que l'amour illuminait de son rayonnement. « Alors, fit-elle, tu ne m'en veux pas trop ?»« Non, ma bien-aimée, répliquait Mandrin, qui n'avait plus besoin d'être désarmé. « Et tu me pardonnes ?»« Je te pardonne. Comme tu es bon. Je t'aime. » « Et moi, je t'adore !» Nicole, transfigurée de joie, s'écriait « Comme nous allons être heureux !» Et tirant de son corsage un papier, elle le tendit à Mandrin en disant « Voici la grâce !» Mandrin s'en empara et lut. Une expression dans laquelle il y avait à la fois de la joie et de l'amertume, de la surprise et de la gratitude se répandit sur son visage. Jamais Nicole ne l'avait vue ainsi. Et, tout anxieuse, elle reprit, hésitante, intimidée, « Ma cousine a été parfaite.
Le roi aussi. »
Mandrin, qui avait cessé de lire, gardait toujours le silence, enveloppant d'un regard plein de tendresse ardente la jolie enfant qui, de plus en plus troublée, crut devoir ajouter
« Tu as lu ? Le roi fait grâce aussi à tes compagnons. »
« Oui, » ponctua gravement le capitaine. Et redressant fièrement la tête, il ajouta
« Mais je ne puis accepter.
Pourquoi ?
Ne serait-ce pas reconnaître que je suis non pas un justicier, mais un criminel ?
Pourtant, c'est impossible,
je te le répète.
Monsieur de Voltaire ne t'a donc pas dit ?
Quoi donc ?
Ce qu'il m'a dit à moi-même.
Voyons, on parle.
Que tu devais accepter.
Il m'a bien fait quelques allusions à ce sujet, mais ne l'ayant pas suivi sur ce terrain, il a jugé plus prudent de ne pas insister.
Il a eu tort, lançait crânement Nicole.
Non, il a eu raison, affirmait Mandrin avec un beau sourire.
Louis, tu ne veux donc pas être maréchal de France ?
Maréchal de France.
Moi ?
Mais oui, une fois dans l'armée, tu ne tarderas pas à te couvrir de gloire.
C'est l'avis de monsieur de Voltaire, et c'est aussi le mien.
Et puis,
une fois illustre,
et cela ne tardera pas,
tu pourrais reprendre ton œuvre.
Comme premier ministre ?
Pourquoi pas ?
Et si le roi refusait de m'écouter, de m'obéir ? J'en serais quitte pour lui arracher sa couronne et la poser sur ma tête.
Qui sait ? Je ne doute pas que tu sois une reine de France incomparable.
Et toi, un roi, comme Henri IV ?
Ma pauvre petite, comment monsieur de Voltaire a-t-il pu te mettre de pareilles idées en tête ?
Ah, on voit bien que le philosophe se double en lui d'un poète.
Et s'animant, s'exaltant même, le capitaine poursuivait.
« Je le vois, à présent. C'est lui qui t'a conseillé de te rendre à Fontainebleau. »«
Oui ? » ?»«
Ah, il a bien fait de ne pas tenir devant moi de tels propos,
car si grande que soit l'admiration qu'il m'inspire, je l'eusse rabroué de belles manières.
En attendant, je vais lui écrire pour le prier de se mêler désormais de ce qui le regarde et pour l'avertir que je lui rends son château. »«
Louis, ne te mets pas en colère !»
Monsieur de Voltaire a cru bien faire en agissant ainsi.
Moi, je m'exprime mal. Je ne sais pas traduire sa pensée, répéter exactement ses paroles.
Mais je te l'assure, si tu l'avais entendu comme moi, tu aurais tout de suite deviné qu'il ne cherchait pas seulement à me consoler et à sauver notre bonheur, mais qu'il voulait assurer aussi, par toi, celui de la France.
Mandrin reprenait avec ironie.
« Je suis très touché de la haute opinion qu'a de moi monsieur de Voltaire. »
Et d'une voix éclatante, il martela.
« Mais je suis Mandrin, le révolté, le justicier, et je le resterai toujours. »
Nicole, à bout de courage, éclata en sanglots. Et, laissant retomber sa jolie tête sur l'épaule de son mari, elle fit, le visage baigné de pleurs,
« Je suis à toi, avant tout, par-dessus tout, et je ferai tout ce que tu désires. »
Nicole, s'écria Mandrin, subitement bouleversé, tout en serrant contre sa poitrine l'être frêle et charmant qui s'abandonnait à lui, dans tout l'élan d'un amour qu'il sentait à la fois si pur et si immense, il fit d'une voix dans laquelle il n'y avait plus maintenant que de la tendresse, toute la tendresse.
Nicole, écoute-moi. Après ton départ, je me suis fait le serment que rien ne me distrairait, ne fût-ce qu'un seul instant, de mon devoir. Eh bien, je te le demande, te sens-tu la force de vivre, non pas délaissé, mais souvent, très souvent, seul, dans une retraite que je te désignerai, et où j'irai, de temps en temps, te rejoindre ?
Oh oui, tout ce que tu voudras.
Réfléchis bien encore. Si cette existence t'effraie, je suis prêt à te rendre ta liberté.
Oh, pour me parler ainsi, ton amour n'est donc pas aussi grand que le mien ?
Mais, s'écria le capitaine, dans l'élan passionné de tout son être, c'est précisément parce que je t'adore à un point que je ne saurais te dire, que je me vois obligé de t'imposer un sacrifice qui me fait souffrir encore plus que tu ne souffres toi-même. Oui, j'avais espéré pouvoir te garder près de moi. J'ai vite compris que c'était un rêve irréalisable. D'abord, j'ai bien vu que ta présence continuelle à mes côtés offusquait mes soldats. Et ils ont raison, les braves. Un chef ne doit-il pas donner à tous l'exemple de la discipline ? Et que leur répondrais-je s'ils me disaient « Vous avez mené votre femme parmi nous. Pourquoi nous aussi n'aurions-nous pas les nôtres ? Toi, ici, c'est la cause qui en souffrira fatalement, irrésistiblement, malgré nous. Oui, malgré ma volonté, malgré la tienne. Toi, là-bas, c'est pour toi la tristesse d'être seul. Les longs instants d'attente dans l'angoisse en te disant « S'il est sûr de me retrouver toujours, suis-je certaine de le voir revenir ?» Telle est la vie qui nous attend. Voilà pourquoi, m'arrachant à l'allégresse de l'heure présente, j'ai voulu te dire toute la vérité. Et le contrebandier s'écria « À mon tour, je te demande pardon. À moi ? Oui, à toi, car je suis un grand coupable. De m'avoir aimé ? De t'avoir troublé par mes déclarations que j'aurais dû taire et de t'avoir enlevé. À bourrer d'Érigny ? Non, aux tiens, près desquels j'aurais dû te laisser à cette existence si douce à laquelle tout te destinait et d'avoir mis en toi toutes les douleurs au lieu de toutes les joies. Louis, reprenait Nicole, si je souffre, si je pleure, ce n'est point parce que je t'aime, mais parce que je pense que je puis être à jamais séparé de toi. » Et s'exaltant à son tour, Nicole poursuivit. « Je comprends que tu ne veuilles pas me garder avec toi, dans ce château. Et tout ce que tu m'as dit à ce sujet, je l'approuve et je m'incline devant ta volonté souveraine. Mais tu me l'as dit aussi, si je ne puis être toujours près de toi, pourquoi ne serais-je pas quelquefois avec toi ? Je serais comme la femme du marin qui, tandis que son mari navigue sur la mer, l'attend au foyer qu'elle garde. Nicole, tu acceptes ? Oui, j'accepte. Oh, comme je t'aime ! Et ce fut un long baiser qui, cette fois, ne fut mélangé d'aucune amertume. Puis, Nicole reprit. « Dis-moi où je dois aller, et je pars tout de suite si tu l'exiges. Non, reste encore ici quelques jours, en attendant que j'aie choisi le petit pays où tu te retireras, où tu m'attendras, et qui sera en quelque sorte la patrie de notre amour. Mais tes compagnons, n'ai-je pas le droit et le pouvoir de leur imposer ma volonté ? Non, tu ne leur diras rien. C'est moi qui leur parlerai, c'est moi qui leur dirai ce que nous avons décidé et qui leur prouverai que je ne veux pas plus te prendre à eux que te voler à ton devoir. Nicole, tu es l'être le plus adorable qui existe au monde. Je t'aime. Conduis-moi près d'eux, tout de suite, car ils seraient indignes de nous de leur cacher plus longtemps ma présence. Oui, viens, mon aimé. » Et tous deux descendirent dans la grande salle où les contrebandiers continuaient à chanter et à boire. À la vue de Mandrin et de Nicole, ils s'interrompirent d'un seul coup, et ce fut au milieu d'un grand silence que Mandrin s'écria « Camarades, ma femme a obtenu du roi ma grâce et la vôtre à tous !» Un murmure nettement désapprobateur accueillit ces paroles. Mais le capitaine s'écria « J'ai refusé la mienne !» Une tempête d'acclamations salua ses paroles. « Je constate, reprenait Mandrin, et je n'en avais d'ailleurs jamais douté, que vous refusez aussi la vôtre. « Oui, oui, capitaine, lancèrent les contrebandiers en se précipitant vers leur chef. « Nous voulons nous battre, nous voulons vaincre ou mourir avec vous. « Et moi, mes amis, reprenait Nicole, moi qui n'ai agi que par tendresse pour mon mari, et par affection pour vous tous, je viens vous déclarer que ma présence parmi vous sera brève. Votre capitaine me l'a fait comprendre, et je me suis incliné devant sa juste volonté. Ne pouvant prendre part à vos dangers, j'aurai au moins la consolation de soulager vos souffrances, et le grand réconfort de me dire que je puis compter sur votre amitié. » Ces paroles produisirent un effet indescriptible sur ces hommes rudes, presque barbares et insensibles à tout ce qui n'était pas leur métier. Instinctivement, tous enlevèrent leur chapeau, saluant, en un élan irrésistible, l'être de douceur et de bonté qui venait de rallumer, au fond de leurs âmes endurcies, la petite flamme humaine qu'avait éteinte le grand vent de la misère et de la rancœur. Mandrin, radieux, s'écria, tandis que toutes les mains se tendaient vers lui et vers Nicole, « Tu seras l'ange de notre victoire !» Et le soir, lorsque tous deux se furent retirés dans leur chambre, Nicole, qui avait retrouvé toute sa gaieté, s'écriait en rougissant, « J'espère bien que cette nuit, on ne viendra pas te chercher pour aller au secours de l'un de tes camarades !» Mandrin, souriant, la rassura d'un baiser. Mais Nicole reprenait, « Et ton ami Thiénot, as-tu réussi à le sauver ?»« Oui, » répliquait le capitaine d'un air sombre. « Il est ici ?»« Non, il est parti. Parti pour toujours. Qu'est-il devenu ?»« Je l'ignore. » Alors Mandrin, s'emparant des mains de Nicole, répéta « Plus jamais de Thiénot le berger !» Depuis l'échec que lui avait infligé Mandrin, le colonel de la Morlière n'avait pas cessé un seul instant de manifester la plus exécrable humeur. Cependant, il n'avait nullement négligé de préparer sa revanche. Appuyé sur une canne, dissimulant un œil poché sous un emplâtre, car il avait reçu de nombreuses contusions au cours de la bataille, le colonel, dans la grande salle du château des Aigles, où il avait établi son quartier général, écoutait, en grognant, le rapport de ses officiers, chargés par lui de regrouper ses forces et de ranimer l'ardeur de ses argoulés, quelque peu démoralisés par la formidable volée que leur avait administrée le capitaine. Lorsqu'un homme, les vêtements souillés, déchirés, les cheveux en désordre, pâle, essoufflé, apparut en criant « Monsieur le colonel, je viens me placer sous votre protection !»
« Mais je vous reconnais !»
s'exclamait la Morlière. Et d'un ton nettement hostile, il ajouta
« C'est vous, l'exempt, le policier ?»«
Oui, monsieur le colonel. »«
Ah ça, on dirait que vous avez reçu une raclée !»«
Oui, monsieur le colonel. »«
Je n'y puis rien. C'est le casuel du métier. Et je n'ai que faire d'écouter vos doléances. J'ai d'autres chats à fouetter. »«
Monsieur le colonel !» haletait Pistolet, tout en s'efforçant de reprendre haleine.
« Il se passe des choses très graves que j'ai le devoir de vous communiquer. »«
Quoi donc ?
Allons, parlez vite, je n'ai pas de temps à perdre. »«
Tout à l'heure, » expliquait le sieur Trollon,
« en traversant la petite localité de Saint-Hilaire, je me suis trouvé en face d'un rassemblement de villageois qui criait à tue-tête « Vive le roi !»
Je me préparais à faire chorus avec eux, mais quelle ne fut pas ma stupéfaction en entendant ces mêmes gens hurler avec le même enthousiasme
« Vive Mandrin !»
Incapable de maîtriser mon indignation, je m'efforce d'imposer silence à ces braillards. Mais en un clin d'œil, je suis entouré, houspillé, reconnu. Un énorme gaillard s'écrie
« C'est Pistolet, l'exempt de police, venu de Paris pour arrêter Mandrin !»
Et me saisissant par la taille, avec une irrésistible vigueur, il me retourne et... Avant que j'aie pu tenter la moindre défense, il commence à m'appliquer, avec une violence effrayante, une magistrale fessée à laquelle prennent part bientôt toutes les commères du village.
« Ah, ça c'est drôle !»
scandait la Morlière. « Je ne suis pas de votre avis, monsieur le colonel, » ripostait l'exempt, piqué au vif.
« Je ne connais rien de plus humiliant pour un représentant de l'autorité que d'être malmené de la sorte.
Bref, après avoir été copieusement rossé, ces gredins ont fini par me remettre en liberté.
et j'en ai profité pour m'enfuir sous les huées de la foule. « Et c'est pour me raconter de telles balivernes, » s'exclamait le colonel, « que vous vous êtes permis de pénétrer en ma présence sans même vous faire annoncer ?»«
Monsieur le colonel, » protestait Pistolet, « si vous connaissiez les vrais motifs de l'agression dont j'ai été victime, peut-être traiteriez-vous cet incident avec moins de désinvolture. »«
Qu'est-ce à dire ?»«
Apprenez, monsieur le colonel, » que si ces gens m'ont fait un aussi mauvais parti, c'est parce que le roi a fait grâce à Mandrin.
« Hein ?»
rugit la Morlière, subitement enragée.
« Le roi ? Grâce à Mandrin ?»
Et, empoignant l'exemple par le collet, il le secoua frénétiquement tout en vociférant.
« Le roi ? Grâce à Mandrin ? Répète-le donc, si tu l'oses !»«
Colonel, vous m'étranglez !
C'est tout ce que tu mérites !»
Et la Morlière continuait à serrer le cou de l'exempt avec une telle force que Pistolet, cramoisi, violé, crut que sa dernière heure était sonnée. Mais une voix s'élevait.
« Ah ça, colonel, pourquoi maltraitez-vous l'exempt trop long ?»
C'était Bourré d'Irigny qui, en costume de cheval et tout couvert de poussière, rentrait dans son château. À sa vue, le fougueux officier desserra son étreinte. Il était temps. Pistolet commençait à râler. La Morlière, s'avançant vers le fermier général, déclarait
« Ce maraud ose prétendre que le roi a gracié Mandrin !»«
C'est vrai !» ponctuait froidement M. d'Érigny. Le vieux militaire, hors de lui, proféra un terrible juron que notre respect pour nos lecteurs nous interdit de reproduire. Mais Bourré, sortant un papier de sa poche, reprenait d'un air important.
« Rassurez-vous, colonel, j'ai mis bon ordre à cela. Voici la révocation de la grâce que M. d'Argenson a fini par arracher à Louis XV. »
La Morlière s'empara du document et le parcourut.
« Ouf ! » s'écria-t-il. « Je respire, mais j'ai eu chaud. Je vous félicite, monsieur le fermier général. Vous avez eu 100 fois raison de vous rendre à Fontainebleau. C'est de la bonne diplomatie, de l'excellente politique. Et maintenant, ça va marcher. Les jours de Mandrin sont comptés. Foi de la Morlière.
Colonel, déclarait M. d'Érigny, gardons-nous d'un trop rapide empressement. Et évitons surtout que Mandrin n'apprenne qu'il est retombé sous le coup de la loi. Il est donc indispensable que le plus grand secret soit gardé sur cette affaire. Car Mandrin, ne se sentant plus menacé, cessera de se tenir sur ses gardes et il nous sera donc infiniment plus facile d'en venir à bout.
« Parfaitement !» approuvait Pistolet.
« Et je me demande même, monsieur le fermier général, si je ne pourrais pas profiter de cette heureuse circonstance. » Il n'acheva pas, donnant cours à tout le mépris que lui inspiraient les gens de police en général et l'exempt trop long en particulier. La Morlière s'écriait
« Silence, oiseau de mauvais augure !»
« Cependant, observait le fermier général,
« comment ?»
éclatait le vieux militaire.
« Voilà un maroufle qui a failli me faire avoir une attaque d'apoplexie et vous voudriez que j'accepte ses services, que je tolère sa présence ?»
Et la canne haute, le sang en furie, il clama
« Hors d'ici, drôle ! Allons, décampe, ou je te fais reflanquer une fessée par mes soldats !»
Désireux de ne pas augmenter encore l'irascibilité du colonel, Bourré ordonnait à Pistolet de se retirer. L'homme noir, d'ailleurs, ne se le fit pas dire 2 fois, et, tournant rapidement les talons, il s'esquiva en grommelant
« Soudard, ce n'est pas toi, c'est moi qui aurai la peau de Mandrin. »